Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes qui supporteront, qui viendront au soutien de la prédication. Donc tout d'abord dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 16 à 18. Matthieu 16, des versets 16 à 18. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ensuite, toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, des versets 15 à 17. Matthieu, chapitre 18, des versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. Ensuite, dans le livre des Actes, au chapitre 20, acte 20, des versets 28 à 32. Acte 20, des versets 28 à 32. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Enfin, dernier texte, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Hébreux 10, des versets 23 à 25. Hébreux 10, des versets 23 à 25. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher.
Une tête sans corps, ou un corps sans tête, ne peut pas vivre. Comme notre lecture de la parole de Dieu sans l'œuvre du Saint-Esprit, qui ne peut pas être vivant en nous. Cette parole ne peut pas être vivante en nous si l'Esprit n'agit pas. Et nous comptons encore ce matin sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour saisir ce que Dieu veut nous dire. Nous arrivons aujourd'hui au dernier dimanche de l'année, qui est aussi la dernière prédication d'une série, en fait, de prédications qui a été donnée ici, qui était intitulée « En Christ et humblement réformé baptiste ». Alors cette petite série sur l'identité théologique de l'Église locale a été donnée en fait dans le cadre des 20 ans de l'Église, puisque l'année 2024, c'était l'année des 20 ans de la constitution de l'Église. Et j'espère que ces 7 prédications ont été et seront utiles pour avoir une vision commune et faire face aux courants qui nous assaillent de gauche et de droite, sans de nouveau chaque fois devoir revenir ou poser quelque part les bases, tout en y revenant évidemment et en y puisant. D'ailleurs, pour les 10 ans, donc en 2014, eh bien, nous avions eu une série de 7 prédications sur l'Église locale, qui avait été intitulée « L'Église de Dieu, l'Évangile rendu visible ». Et je vous encourage à réécouter cette série qui est mise donc sur le site de l'ERBN. Et je profite d'ailleurs de remercier les techniciens qui font tout le travail pour que cela puisse être réécouté dans l'avenir. Je vous encourage aussi à éprouver tout ce que vous entendez. C'est important. Ce qui n'est pas la même chose que remettre en question. Remettre en question, à ce que je vois généralement, c'est partir du principe que quelque chose est faux et souvent ne rien faire. Ça, c'est remettre en question. Alors qu'éprouver, c'est partir du principe que c'est juste et éprouver Bible en main et être prêt à modifier au besoin avec un appui biblique solide. Alors, comme nous l'avons vu lors de notre dernière prédication, nous ne nous appuyons pas sur nos propres pensées, sur nos idées, pensant que nous sommes plus intelligents que nos prédécesseurs. En fait, nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui était écrite par des personnes au moins aussi intelligentes que nous dans le passé. On avait vu la dernière fois que souvent on a l'impression qu'avant les gens étaient moins intelligents que nous maintenant. C'est pas biblique, c'est faux. Ils étaient au moins aussi intelligents que nous et guidés par l'Esprit de Dieu pour écrire la parole qui ne change jamais. Nous nous référons aussi volontiers à des écrits de référence comme des confessions de foi du passé éprouvées par le temps et aussi écrites par des gens au moins aussi intelligents que nous et guidés par l'Esprit de Dieu comme nous le sommes aussi. Aujourd'hui, le titre de la prédication est « En Christ ». La tête du corps dans laquelle nous vivons. En Christ, la tête du corps dans laquelle nous vivons. Et nous parlerons spécialement de l'Église locale qui est la manifestation visible du corps de Christ. L'Église locale qui est la manifestation visible du corps de Christ. Pour ceux qui nous visitent, lorsque vous avez des phrases qui sont dites deux fois, généralement, c'est des phrases à compléter dans le petit papier que vous avez pu prendre à l'entrée. Voilà, donc là, il y en avait une, l'Église locale qui est la manifestation visible du corps de Christ. Alors, comme promis, je vais insister, et j'aime insister, que notre identité est en Christ. Elle est en Christ et non pas dans une dénomination quelconque. Notre identité est en Christ. Et ça, c'est un élément fondamental. Elle n'est pas dans le fait d'être réformé baptiste ou d'être d'une autre église locale. Elle est en Christ. Christ. Et cette identité sera par contre vécue dans un contexte ecclésial qui influence notre manière de vivre notre foi dans ce pèlerinage terrestre. Alors ce matin, j'ai 4 éléments auxquels nous allons réfléchir. Le premier, c'est que nous allons réfléchir au lien entre Jésus et l'Église et par conséquent de notre identité en Christ en lien avec l'Église, Jésus et l'Église. Ensuite, nous réfléchirons quelques instants sur l'enseignement du Nouveau Testament en lien avec l'Église de Christ. Troisièmement, nous nous arrêterons plus particulièrement sur la vie de l'Église locale en Christ. Et en dernier lieu, nous terminerons par réfléchir au lien entre Église locale en Christ. Être chrétien ou ne pas être chrétien ne dépend pas de notre appartenance à une église, elle dépend de notre appartenance à Christ. Notre salut dépend de l'œuvre de Christ et pas d'une croyance exacte dans certaines vérités théologiques. Par contre, notre appartenance à Christ impliquera une vie dans son corps. Ça implique une vie dans son corps. Comme la foi est morte sans les œuvres, ça c'est Jacques qui le dit, on pourrait dire qu'une appartenance non impliquée n'est pas une appartenance. Et comme nous allons le voir, appartenir à Christ, c'est aussi appartenir à son corps. C'est faire partie de son troupeau. Donc commençons par réfléchir au lien entre Jésus et l'Église. Plusieurs illustrations dans le Nouveau Testament, en fait, font le lien entre Jésus et l'Église. Est-ce que vous en connaissez? Jésus et l'Église, par exemple. Une idée? La mariée, donc Marie épouse, exactement. Et ça, c'est dans les petits papiers, ça va en troisième point, si jamais. Jésus est l'époux, l'Église son épouse. On le voit dans Éphésiens 5, dans Colossiens 2, Corinthiens 11 et Apocalypse 19, 7. Hein. Exactement, Jésus est l'épouse, l'Église... Non, Jésus est l'époux et l'Église son épouse. Une autre image. Le corps. Jésus est la tête et l'Église est son corps. C'est le premier élément. Hein. Jésus est la tête et l'Église son corps, qui d'ailleurs a plusieurs membres. Le corps a plusieurs membres. C'est une des illustrations les plus complètes qui nous aident à connaître notre place et celle de Jésus. La tête et le corps avec plusieurs membres. Il y a encore l'image de Jésus qui est le berger et l'Église son troupeau. L'Église, le troupeau, Jésus, le berger. Dans Jean 10, 16, Actes 20, 28, etc. Donc ça, c'est des images qui nous aident à comprendre la place de Jésus et de l'Église, ce lien qu'il y a entre les deux. Et la première fois d'ailleurs que le terme « Église », « Ecclésia » apparaît dans les évangiles, c'est dans Matthieu 16, versets 15 à 19. On l'a lu tout à l'heure, j'aimerais vous le relire, vous pouvez regarder dans vos Bibles, toujours vérifier ce que je raconte, puisque la vérité, c'est la parole, c'est pas moi. Donc Matthieu 16, verset 15, qui dit ceci, « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus bâtit son Église. Ce n'est pas celle de Pierre, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus. Et c'est Jésus qui est la pierre de l'angle. Ça, c'est Éphésiens 2, 20 ou Actes 4, 11 ou Dieu Père 4, 7 qui nous permettent de le voir. C'est Jésus, la pierre de l'angle de l'Église. Jésus en est aussi la tête, il est la tête de l'Église. C'est lui qui la dirige, qui en est l'instigateur, qui veille au bon fonctionnement du corps. Colossiens 1, 18 est très clair. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors l'Église de Jésus, que contient-elle en fait? Elle contient tous les croyants rachetés. Tous les croyants rachetés, tous les élus, tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ de partout et de tous les temps. Ça, c'est l'Église de Christ, général. L'Église de Jésus contient tous les croyants rachetés, tous les élus, tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ de partout et de tous les temps. C'est ce que l'on appelle l'Église universelle ou l'Église invisible. L'Église universelle ou l'Église invisible. Et cette Église universelle est rendue visible par l'Église locale. Un peu comme le baptême rend visible l'œuvre invisible du baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, que l'on vit devant tous publiquement, rend visible quelque chose d'invisible. Eh bien, comme l'Église locale rend visible l'Église invisible de Dieu. Les Églises locales fidèles à Jésus-Christ sont les manifestations visibles de l'Église de Christ. Chacune a Christ comme tête, comme époux et comme berger divin. Chaque Église locale. Les Églises locales fidèles à Jésus-Christ sont les manifestations visibles de l'Église de Christ. Et chaque église locale est appelée à vivre l'amour les uns pour les autres que Jésus a commandé à ses disciples afin que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples. Donc c'est dans ce cadre-là, premièrement, que nous allons vivre cet amour les uns avec les autres. Jean 13, 34-35 le souligne. Et pendant sa vie, Jésus a préparé le développement de son église dont il est la pierre angulaire et qu'il a acquise par son propre sang. Donc Jésus aime l'Église, c'est Actes 20, 28 qui nous le dit. Ensuite, après son départ à l'ascension, il envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte. Des milliers d'hommes et de femmes sont touchés par la prédication de la parole de Dieu. Ils croient, se repentent, se font baptiser et l'Église visible naît à Jérusalem. Une tête, sans corps, un berger sans troupeau, un époux sans épouse, ce n'est plus une tête vivante, ou un berger d'un troupeau, ou un mari. Vous savez, Jésus et l'Église sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. L'Église universelle, qui est la totalité du corps, du troupeau, de l'épouse, se manifestera visiblement de ce monde par les églises locales visibles et tangibles. Alors les membres de l'Église forment l'Église, les membres forment l'Église. C'est pour cela qu'un membre d'une Église parle de son Église. Il dit « notre Église » et s'y identifie pleinement. C'est normal, c'est une manifestation visible et tangible. Et il ne rejette pas les autres, l'Église locale. Non, il se réjouit que d'autres vont dans ces églises et encourage la fidélité. C'est ne pas « sois fidèle à mon Église », c'est « sois fidèle à ton Église ». Sois fidèle là où Dieu t'a placé. Et tout le reste du Nouveau Testament nous parle de l'Évangile qui se répand et qui est appliqué dans toutes les sphères de la vie, l'Église étant le lieu de la vie de foi, d'enseignement et de développement de la maturité. Donc, on voit ce lien très fort entre Jésus et l'Église. C'est un lien qu'on ne peut pas enlever. Si on enlève ça, c'est, comme j'ai dit, un époux sans épouse, un berger sans troupeau, etc. Donc ça, c'est un élément déjà très fort à comprendre et qui nous invite, si notre identité est en Christ, de vivre ce lien aussi très fort nous-mêmes. Deuxièmement, le Nouveau Testament et l'Église de Christ. Alors, comment sont appelés ceux qui font partie de l'Église? Alors, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, verset 2, donc au début des Épîtres, souvent il y a une salutation où il explique à qui il écrit. Et puis ici, Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit ceci, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe ». Et là, il dit en fait les caractéristiques de ces personnes. « À ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus ». Appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu qu'ils soient, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, quelles sont les caractéristiques? Eh bien, ce sont ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, qui sont l'Église, ceux qui ont été sanctifiés. Ceux qui sont appelés à être saints sont l'Église. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ sont l'Église. Si on prend Romains 1, 7, par exemple, où il est dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, hein, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et si on regarde tout le Nouveau Testament, si on regarde toutes les épîtres, par exemple, les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, eh bien, elles sont toutes écrites à des églises. Toutes ces épîtres sont écrites à des églises. Les épîtres à Timothée, Tite et Philémon sont écrites à des responsables d'église. Et les autres épîtres parlent de l'église de manière directe ou indirecte. Là, je vais vous faire grâce de toutes les références. Si ça vous intéresse, je peux vous les donner. Ou ceux qui suivent en russe, par exemple, ils ont toutes les références. Donc, les autres épîtres nous parlent de l'église de manière directe ou indirecte. Si vous enlevez, en fait, tout ce qui concerne l'église ou ce qui doit se vivre dans l'Église, dans le Nouveau Testament, ben, il ne vous restera pas grand-chose. La foi chrétienne, c'est vrai, est personnelle, mais elle ne se vit pas seule. Elle est vécue communautairement. Elle ne peut se vivre seule comme une braise d'un feu qui seule se refroidit très vite, alors que les braises, les unes avec les autres, ensemble, se stimulent et restent rouges, pour donner une petite illustration. On pourrait dire aussi que le salut n'est ni individuel ni communautaire, il est les deux. Le salut est individuel et communautaire. Tous les textes qui sont écrits, qui nous appellent à vivre des choses les uns avec les autres, on a ici dans l'Église une année vu plein de versets bibliques les uns avec les autres, eh bien c'est des choses qui se vivent dans l'Église, les uns avec les autres. Si vous voulez deux textes un peu plus longs qui parlent de cela, vous avez Romains 12, de 9 à 21, ou 1 Corinthiens 13, 4 à 7, qui parlent de l'amour à vivre dans l'Église. Évidemment, ça va déborder aussi. C'est en étant fidèle dans une église locale que vous devrez supporter ceux qui ne vous plaisent pas. C'est quand on est fidèle dans une église locale qu'on doit supporter ceux qui ne nous plaisent pas. Si vous dites vivre dans l'église universelle, vous ne devez supporter personne avec persévérance et ne rendre compte à personne. Si vous dites « moi je vis dans l'église universelle », pas d'église locale, eh bien vous ne devez supporter personne avec persévérance et vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est en étant dans une église que vous devez vous soumettre et obéir aux anciens, qui est une expression visible de l'obéissance à Christ, le divin berger. Si vous dites que vous faites partie de l'église universelle sans être dans une église locale, qui sont vos anciens? Et les anciens, vous dites peut-être qu'ils sont anciens de l'église universelle, mais alors de qui doivent-ils s'occuper? Ici, en tout cas, dans l'église locale, les anciens sont responsables de ceux qui sont membres de l'église. Et c'est de eux qu'ils devront rendre compte au dernier jour, comme c'est dit dans Hébreux 13, verset 17. Dans Hébreux 13, 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-les soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ceux qui ne seraient pas à votre avantage. » Alors, si les pasteurs de l'Église prennent aussi soin des personnes qui ne sont pas membres, c'est de la charité. Ce n'est pas un devoir contraignant. C'est bien, mais ce n'est pas un devoir contraignant. Et il est important de prier pour vos évêques, qui sont aussi vos bergers. Et nous remercions d'ailleurs chaleureusement tous ceux qui le font régulièrement. C'est la prière qui sera le moteur de tout ce que nous pourrons vivre, parce que notre dépendance est à Christ. C'est lui notre divin berger. Nous pourrions encore voir plusieurs éléments. Par exemple, 9 marques utiles pour une église en bonne santé, avec tous les textes du Nouveau Testament, en parlant du Nouveau Testament et de l'église. Alors, je ne pourrais pas vous détailler, mais c'est ce qui est à la base du ministère de 9 marks que nous apprécions. Et ce sera dans le troisième point que je vais reprendre ces différents éléments pour saisir la vie dans l'église locale de Christ. La vie dans l'église locale de Christ. Et donc j'aimerais vous parler de ces 9 marques importantes d'une église en bonne santé. Tout n'est pas dit, des choses sont sous-entendues, hein. La prière, la communion fraternelle, etc. Font aussi partie même s'ils ne sont pas exprimés. La première marque, c'est une prédication-exposition. Une prédication-exposition. C'est la Bible qui doit nous former et non pas nous qui devons déformer la Bible. C'est la Bible qui doit nous former. Et il y a une priorité à la prédication-exposition qui permet de rester à l'écoute de la parole et de faire face à tous les textes. C'est pour ça qu'on aime suivre des livres bibliques, comme on a terminé le livre de Jacques tout dernièrement, comme on est en train de suivre 2 Pierre, enfin, etc. Ce qui n'empêche pas certaines prédications thématiques, comme aujourd'hui par exemple. Deuxième point important, la théologie biblique, une bonne théologie biblique. Là, je ne peux pas développer beaucoup, mais c'est l'idée que la Bible est un ensemble cohérent, qu'on ne va pas chercher à prendre des textes totalement hors de leur contexte. On va essayer de comprendre l'histoire générale de la Bible. Troisièmement, l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ doit être clairement compris, annoncé et vécu. Qu'est-ce que l'évangile ? Alors là, je pourrais venir maintenant avec un petit micro vers vous, puis vous dire, c'est quoi l'évangile ? Non, je ne le ferai pas. Mais vous pouvez essayer vous-même de dire, c'est quoi l'évangile ? On doit pouvoir l'exprimer. L'évangile, ce n'est pas assouvir nos besoins personnels et nous donner une meilleure image. Même s'il y aura des conséquences qui vont dans cette direction. L'évangile, c'est une grâce exceptionnelle, extraordinaire, pour des pécheurs qui méritent le jugement de Dieu. C'est ça l'évangile. Quatrième point important, ou marque importante, c'est une compréhension biblique de la conversion. Qu'est-ce que la conversion ? Une compréhension biblique, j'y reviendrai encore tout à l'heure. Mais il est important de comprendre que Dieu produit des changements de vie qui portent des fruits et se différencient clairement du monde. Quelqu'un qui dit « je suis converti » et qu'il vit exactement comme quelqu'un du monde, il n'est pas converti. La conversion, c'est un changement de vie. C'est une œuvre de Dieu dans le cœur, c'est une transformation. Cinquième élément, la compréhension biblique de l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation ? Il ne s'agit pas de faire du marketing, mais d'annoncer l'état de perdu de chacun devant Dieu, souverain, qui ne nous doit rien d'autre, que le jugement. Ça, c'est la situation initiale. Et nous allons inviter avec urgence à se tourner vers Jésus-Christ qui est venu donner sa vie pour sauver quiconque croit en lui. Nous annonçons la repentance et la foi à un roi qui prend le contrôle de notre vie pour notre bien. Ça, c'est de l'évangélisation. Nous cherchons à amener les gens à se soumettre à Jésus-Christ parce que c'est en lui qu'ils seront sauvés de leurs péchés. Sixièmement, une compréhension biblique de ce qu'est un membre d'Église. C'est aussi important cette notion de qu'est-ce qu'un membre d'Église. C'est être mis à part dans une famille spirituelle fonctionnelle et saine pour y vivre une foi d'une manière solidaire et responsable. Il est possible de changer d'Église, c'est vrai. Mais dans chaque Église, c'est la fidélité, le sérieux qui est à vivre. Et moi, j'aime dire, non pas seulement à ceux qui sont dans l'église ici, mais à ceux qui sont dans chaque église, soyez fidèles dans votre église. C'est là que Dieu vous a placé maintenant. C'est là que vous êtes appelés à vivre votre foi maintenant. Septièmement, la discipline biblique de l'église. Alors, c'est pas un terme qu'on aime forcément entendre, la discipline. Enfin, ça dépend. Les sportifs, souvent, ils aiment encore bien l'entendre parce qu'ils comprennent cette notion de discipline pour progresser. En fait, chaque membre est sous une discipline bienveillante et bienvenue et permanente. Parce qu'en fait, chaque chrétien sérieux désire être proche de Christ. Et il désire que si jamais il s'éloigne de Christ sans s'en rendre compte, en fait, que quelqu'un d'autre lui dise « Attention, t'es en train de t'éloigner !» pour lui dire « Merci de m'avoir aidé à ne pas m'éloigner de Jésus-Christ. » C'est vrai que la discipline corrective lorsqu'un membre s'écarte de l'enseignement biblique sans repentance n'est jamais facile. Parce que nous avons tous ici un cabinet d'avocats, d'auto-justificateurs en nous. Enfin, en tout cas moi, je me rends bien compte. Et c'est pas facile lorsqu'on est mis face à notre péché de dire « je vais m'en repentir ». Mais quelle délivrance lorsque nous avons l'humilité de le reconnaître et dire « oui, c'est vrai, je m'éloignais. Merci de m'avoir aidé à revenir. » Prions pour vivre ensemble cette notion de discipline bienveillante, aimante, qui nous fait venir à Christ. La discipline a toujours pour objectif le retour vers Christ, toujours. Si la discipline, c'est l'objectif d'écarter les gens, ce n'est pas une discipline biblique. La discipline biblique, c'est de tourner vers Christ d'un cœur repentant et rempli de foi. Huitième point, un intérêt pour le discipulat et la maturité. En fait, l'Église désire que chacun progresse. Il doit y avoir un clair progrès de maturité les uns avec les autres. Et l'Épître aux Hébreux nous parle de passer du lait à la viande. C'est une image aussi de, en fait, pas seulement manger du lait, boire du lait. Enfin, je pense que vous ne buvez pas que du lait d'ailleurs. Quand vous étiez tout petit bébé, mais plus maintenant. Eh bien, dans la foi chrétienne, c'est la même chose. Nous désirons ne pas seulement nous nourrir de petit lait, mais d'être capable de manger de la viande. Et le discipulat se fait dans l'Église ou en lien avec l'Église parce que c'est dans ce cadre que Dieu nous a placés comme il a placé chacun dans une famille biologique pour grandir. Et neuvième marque, c'est la conduite de l'Église biblique. L'Église doit être conduite par des anciens qui sont aussi appelés pasteurs, bergers, évêques, conducteurs. En fait, c'est tous des synonymes avec simplement des éléments qui soulignent des aspects particuliers de leur rôle. Et les textes de 1 Timothée 3, 1 à 16, Tite 1, 5 à 9, 1 Pierre 5, 1 à 15 et Hébreux 13, 17 sont des passages de la Bible importants pour l'établissement de la vie des anciens et des diacres dans l'Église. Alors ces 9 points nous permettent de comprendre plusieurs éléments importants de la vie d'Église. Chaque point pourrait bien entendu être encore développé, pour encore être montré comment le vivre concrètement dans chaque aspect de nos vies. Mais j'aimerais encourager chacun à avoir une grande estime de l'Église locale. L'Église locale, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est manifestée visiblement. Quelqu'un a dit que c'est l'Église qui est l'épouse de Christ, manifestée visiblement par l'Église locale, et non les œuvres para-ecclésiales qui, elles, sont des amies de Jésus-Christ, mais pas des épouses. C'est l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai que certaines personnes, malheureusement, ont vécu des expériences difficiles dans des églises. parfois à cause de leur propre péché et de leur propre orgueil, parfois à cause du péché et de l'orgueil des autres membres, ou parfois même à cause des péchés des anciens. Ou souvent, tout mélangé. Mais cela n'enlève rien à ce que la Bible dit de l'organisation de l'Église. Et si Ézéchiel 34 parle des mauvais bergers, le bon berger y est aussi annoncé. Et c'est vers Christ que nous voulons toujours trouver notre refuge, aussi dans l'Église locale. C'est Christ, le divin berger, et chacun, chaque berger d'ailleurs, est appelé à être dans le troupeau de Christ et imiter Christ. L'Église locale est le lieu où nous pouvons manifester notre allégeance à Christ, notre capacité à supporter les autres, à encourager, à utiliser les dons que Dieu nous a donnés, à être intègre et ouvert comme un livre que l'on peut lire pour s'émerveiller de l'Évangile. Et j'ai bien dit s'émerveiller de l'Évangile quand on ouvre le livre de votre vie. Pas s'émerveiller de la perfection de Tartempion. Non, s'émerveiller de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est être capable de reconnaître ses faiblesses, ses manquements, et de dire, c'est Christ ma justice. C'est pas moi. Mais évidemment que comme Christ vit en moi, je veux le servir, je veux vivre toujours plus proche de lui. Et je vous encourage du fond du cœur à être investi, fidèle, identifié à votre Église locale. Sinon, comment pouvez-vous dire que vous vous identifiez en Christ qui n'est pas visible si vous n'êtes pas capable de vous identifier à son corps visible? Moi, je vous encourage à être investi, fidèle, identifié à votre Église locale. Sinon, comment pouvez-vous dire que vous vous identifiez à Christ ou au corps de Christ qui n'est pas visible si vous n'êtes pas capable de vous identifier à un corps visible? C'est un peu semblable à ce que dit Jean en 1 Jean 4, 20, quand il dit, là, c'est assez fort, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors si je le reprends dans le cadre de l'Église, si quelqu'un dit qu'il aime l'Église de Christ mais qu'il n'aime pas son Église locale, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas l'Église qu'il voit ne peut pas aimer l'Église qu'il ne voit pas. Bien entendu qu'il existe d'autres églises locales que là où vous êtes, ou ici où nous sommes, qui font partie de l'église invisible de Christ. Et j'encourage les membres de ces églises à rester fidèles dans leur église. Et nous allons justement voir maintenant un dernier point, qui est le lien entre les églises locales de Christ. Le Nouveau Testament nous indique des liens forts entre les églises de Christ. Ces liens étaient forts parce que... Non, pas parce qu'il y avait une structure en place. Pas parce qu'on avait commencé à mettre des fédérations, des associations ou tout ce que vous voulez. Non, le lien était fort parce que les membres des églises étaient en relation les uns avec les autres et aimaient Jésus-Christ et voulaient être fidèles à son enseignement. Si Jésus est la tête de l'église locale, il doit être le lien entre les églises locales. Si Jésus est la tête de l'église locale, il doit être le lien entre les églises locales. La vérité et le désir de progrès spirituel attaché à Christ et détaché du monde étaient importants et partagés. Si on regarde Jean 17, qui est souvent utilisé pour l'unité, eh bien vous verrez que l'unité, elle est dans la vérité et dans la sainteté, et pas dans le plus petit dénominateur commun. Paul, lorsqu'il envoie sa lettre aux Colossiens, leur dit... Ça, c'est intéressant, quand même, ce qu'il dit ici dans Colossiens 4, 16. « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez également celle qui arrivera de Laodicée. » Il y avait des liens entre les églises. C'est important, ces liens. Et en tant que réformés baptistes, nous aimons avoir des relations avec d'autres églises locales. Bien sûr, le premier cercle de liens forts est bien entendu avec les autres églises réformées baptistes, avec qui nous avons une théologie commune qui est explicitée dans la Confession de foi de 1689. Mais chaque église locale reste indépendante. Chaque église locale reste indépendante. Il n'y a pas de pouvoir ecclésiastique en dehors de l'église locale sur laquelle Jésus-Christ, en fait, il a tout pouvoir sur l'église locale. Il n'y a pas d'organisation para-ecclésiastique au-dessus. C'est Christ qui a tout pouvoir. Dans laquelle il a placé des bergers, d'ailleurs, dans l'église locale, qui devront lui rendre des comptes. D'ailleurs, l'article 15 du chapitre 26 de la Confession de foi de 1689 permet de comprendre une bonne manière d'agir dans les relations entre églises locales lorsqu'il y a des difficultés. Bon, je vous fais grâce de l'article. Vous pouvez le relire si jamais. Mais ça nous explique cette notion que l'on peut amener des conseils, on peut même envoyer des délégations pour aider les églises, mais qu'en fait, c'est toujours l'église locale qui a l'autorité et pas d'autres églises qui ont l'autorité sur elle. Il existe bien entendu d'autres églises de Christ qui ne sont pas réformées baptistes. C'est des églises de Christ qui ne sont pas réformées baptistes. Vous prenez, notre identité est en Christ. Et nous aimons aussi avoir des relations et collaborons volontiers avec eux dans les domaines où nous sommes en accord. Je donne juste deux exemples de ce que nous vivons. Depuis quelques années, nous co-organisons une conférence au printemps avec plusieurs églises lors de la venue de professeurs de la faculté de Jean Calvin. Bon, petit exemple. Où nous organisons des camps d'enfants avec des moniteurs de différentes églises, ouverts d'ailleurs à des enfants de partout. Des projets ponctuels de présentation de la Bible, par exemple, pourraient encore se vivre. Et nous sommes appelés à prier pour nos frères et sœurs en Christ dans les autres églises. C'est important. Nous allons vivre l'éternité ensemble. C'est important. L'unité ne doit par contre jamais être vécue sans la vérité. Nous voulons être attentifs à ce que Paul dit dans Galates. Regardez avec moi dans Galates 1. Ça, c'est un texte assez fort quand même. Galates 1, à partir du verset 6. Nous avions vu cela dans l'étude biblique. Cette année, nous avons fait l'épître aux Galates. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et en Église également, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Tout particulièrement au monde qui veut nous inciter à nous mettre ensemble avec le plus petit dénominateur commun pour affaiblir la vérité à annoncer et à vivre. Parce que notre identité est en Christ, avec tout ce que cela signifie, nous avons des relations et collaborons uniquement avec des églises, et là je vous en donne cinq éléments. Premièrement, des églises qui ont pour unique autorité la parole de Dieu, sans erreur, qui s'interprètent par elles-mêmes et pas au même niveau qu'une tradition ou un quelconque autre écrit. Donc ça c'est un premier élément, c'est le sola scriptura. Des églises qui croient qu'il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Dieu et homme, et personne et rien d'autre. C'est reconnu le solus Christus. Nous collaborons avec des églises qui croient que le seul moyen pour être sauvé est la foi. Et aucune œuvre personnelle ou de quelqu'un d'autre en dehors de Christ ne peut nous sauver, mais une foi vivante peut saisir le salut. Vous avez reconnu le sola fide. Ou encore des églises qui croient que la seule source de salut est la grâce. Aucun mérite ne vient de nous. C'est Christ uniquement et totalement qui a mérité notre salut. C'est le sola gratia. Ou encore, et là vous l'attendez maintenant puisque c'est le cinquième, des églises qui veulent donner toute la gloire à Dieu et qui ne veulent pas garder une quelconque gloire pour elles-mêmes. Le sola soli deo gloria. Si nous voulons vivre notre identité en Christ, nous ne pouvons pas nous associer avec des églises qui ne vivent pas les solas ou qui les combattent. Vous voyez ? Donc c'est notre identité en Christ qui va déterminer les liens avec les autres. Si nous voulons vivre notre identité en Christ, nous ne pouvons pas nous associer avec des églises qui ne vivent pas les solas ou les combattent. Pour évangéliser, nous annoncer le salut en Jésus-Christ, nous aimons collaborer avec des églises qui croient en la grâce désillusionnante de l'état de l'homme qui est déchu. En fait, il n'y aura ainsi pas de confusion. Nous ne cherchons rien de bon en l'homme. Nous ne cherchons rien de bon en l'homme, même dans l'évangélisation. Nous dirigeons totalement vers Dieu, à qui nous devons rendre des comptes et de qui vient tout bien. Deuxièmement, Nous aimons collaborer avec des églises pour l'évangélisation, des églises qui croient à la grâce imméritée du choix de Dieu. Il n'y aurait ainsi pas de confusion. Tout le mérite revient à Dieu. Et nous aurons aussi ainsi une assurance pour celui qui est sauvé, puisque tout vient de lui. Troisièmement, nous aimons collaborer avec des églises qui croient à la grâce accomplie du salut. Il n'y aura ainsi pas de confusion dans l'annonce de l'évangile. Nous ne dirons pas à tout va « Jésus t'aime » ou « Il est mort pour toi ». Mais plutôt « Repentez-vous ». Jésus est mort pour celui qui se repent de ses péchés. Jésus ouvre ses bras d'amour pour tous ceux qui le reconnaissent pour le roi. Et nous souhaitons que ce soit le cas pour toi. Viens à Jésus. Nous aimons aussi collaborer pour l'évangélisation avec des églises qui croient à la grâce transformante de notre nature. La grâce transformante de notre nature. Il n'y aura ainsi pas de confusion. Une personne n'est pas sauvée lorsqu'elle est intéressée par le salut ou qu'elle a levé la main une fois, mais lorsque sa nature est transformée et qu'elle vit l'évangile. Nous croyons à la grâce transformante de notre nature. Nous aimons aussi collaborer avec des églises qui croient à la grâce inébranlable pour l'éternité. Il n'y aura ainsi pas de confusion quant à la durée du salut d'une personne. Dès qu'une personne est née, elle ne peut dénaître. Lorsque Jésus a payé la dette, cette dette est effacée. Une personne qui a reçu une nouvelle nature ne la perd pas, même si malheureusement, parfois, elle peut la salir beaucoup. Or malheureusement, il y a aussi des fakes, ça c'est une autre histoire. Même s'il n'y a pas beaucoup d'églises autour de nous qui annoncent l'évangile de cette manière, nous continuerons à nous réjouir de l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et chaque fois que nous verrons, dans n'importe quelle église, une personne qui est transformée par Jésus-Christ, nous nous en réjouirons. Nous voulons des vies transformées en Christ, des vies qui s'identifient à Christ. Je vous ai dit, je le répète et je répéterai encore, notre identité est en Christ et pas dans une union d'église ou une théologie particulière. Comme Paul le disait même en Philippiens 1, 28, où des gens même annonçaient, là ça va encore plus loin, de l'évangile d'une manière pas très, avec des motivations plutôt égoïstes, mais il disait, Christ est annoncé, réjouissons-nous. Ayons cette même attitude. Nous arrivons à la conclusion de cette prédication et de cette série. Qu'allons-nous retenir ? Alors j'espère que vous retiendrez premièrement deux choses, puis après il y en a encore d'autres, mais premièrement deux choses. La première, c'est que notre identité est en Christ et non pas dans un système théologique. Alors j'espère que ça c'est clair, enfin, durant les sept prédications vous avez entendu répéter ça, je continuerai à le faire. Notre identité est en Christ et non dans un système théologique. Et deuxièmement, l'identité théologique a des conséquences sur la manière de vivre notre identité en Christ dans notre pèlerinage terrestre. Il y a des conséquences. L'identité théologique a des conséquences sur la manière de vivre notre identité en Christ dans notre pèlerinage terrestre. Alors, en tant que réformés baptistes, nous sommes fiers d'être en Christ. Voilà, c'est ça. Nous sommes fiers d'être en Christ et heureux d'avoir une théologie solide et cohérente. Et je prie que cette théologie soit vécue dans la compassion, la douceur, le courage, la paix, la conviction, la bienveillance, la vérité, la justice, l'égard pour les autres, la tempérance, la maîtrise de soi et l'amour. Or, les réformés baptistes ne sont pas uniformes dans leur manière de vivre leur foi, hein, mais ces éléments que je vais vous donner ici sont généralement présents de manière plus ou moins marquée. Et comme il y a même d'autres pasteurs réformés baptistes ici, vous pourrez aller tout de suite vérifier tout cela. Donc premièrement, en tant que réformés baptistes en Christ, nous nous basons et appuyons sur la parole de Dieu complète à laquelle rien ne doit être ajouté et donc plus besoin de dons miraculeux personnels pour l'attester. Ça, c'était la première prédication. Donc maintenant, je fais simplement le petit résumé de chaque prédication. C'était la première. Deuxième. En tant que réformés baptistes en Christ, nous croyons en un sauveur et seigneur souverain sur tout et sur notre salut également. Et vous vous souvenez peut-être des sola et des cinq grâces d'Iati, qu'on a d'ailleurs revues aujourd'hui. Troisièmement, en tant que réformés baptistes, en Christ, nous croyons à une adoration centrée sur Dieu, utilisant le principe régulateur et ayant aucun autre médiateur que Christ pour nous approcher de Dieu. Pas même la musique, qui est une bonne chose, mais qui n'est pas un médiateur pour s'approcher de Dieu. C'est Jésus-Christ. Ensuite, quatrièmement, en tant que réformés baptistes, en Christ, nous croyons au Créateur qui a donné la vie au premier homme Adam et à la première femme Ève, de façon extraordinaire et complémentaire, avec une identité et une responsabilité clairement déterminées. Ensuite, en tant que réformés baptistes, en Christ, nous croyons que Christ est le médiateur d'une alliance meilleure dans laquelle nous entrons par la nouvelle naissance qui nous attache à Christ et qui sera publiquement manifestée par le baptême d'eau, par immersion. Ensuite, en tant que réformés baptistes en Christ, nous croyons que Dieu n'a pas changé. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Et que nous sommes appelés à aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il trouve horrible. Depuis toujours et pour toujours. Il n'a pas changé. Et ce que nous croyons de lui et de Jésus-Christ n'a pas changé dans l'histoire. C'est pourquoi nous sommes confessionnels. Et dernièrement, c'est ce qu'on a un peu vu aujourd'hui, en tant que réformés baptistes en Christ, nous croyons que la manifestation visible de son corps est très importante et qu'elle ne doit pas s'associer à ce qui peut l'éloigner de Christ et que la vie d'Église est une part importante de la vie du croyant. Alors, comme je l'ai dit en début de cette conclusion, je prie que cette théologie soit vécue dans la compassion, dans la douceur, dans le courage, dans la paix, dans la conviction, dans la bienveillance, dans la vérité, dans la justice, dans l'égard pour les autres, dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, dans l'amour et dans l'humilité. Notre identité est en Christ, ne l'oublions pas, soyons donc fiers de Christ. Et pour ceux qui sont ici dans l'Église, humblement, réformés baptistes, et ceux qui sont ailleurs, humblement, ailleurs. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants que Christ est notre fondement, Christ est notre joie, Christ est notre paix et Christ est l'époux d'une épouse, Christ est le berger d'un troupeau, Christ est la tête d'un corps. Et j'aimerais Seigneur te prier de nous donner cette grâce, de vivre tellement proche de Christ que nous aimons les mêmes choses que lui. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.